sur Europe 1.
Venez vous confier à Yann Moix en appelant le 3921
50 centimes la minute.
Alors, évidemment, je vais m'adresser tout de suite à Eric Sadin. Mon cher Eric, est-ce que ça signifie que les chroniqueurs d'Europe 1, dans quelques années, n'auront plus qu'à dire Sacha Guitry et la chronique sera faite ?
On peut voir les choses.
Approchez-vous bien de notre micro. Hein, ou alors, voilà.
On peut voir les choses comme ça, mais je pense que c'est une façon biaisée. C'est-à-dire que le fait que ces systèmes-là, qui sont encore balbutiants, mais qui sont en sophistication sans cesse croissante. C'est-à-dire que ces machines parlantes, qui sont à l'œuvre depuis une dizaine d'années, nous sommes début janvier 2023, en 2030, ça ne sera pas du tout le même état de l'art. Alors on dit, est-ce que vous pouvez nous écrire un article sur, les chances de probabilité de Biden de faire un deuxième mandat. Alors il va répondre des choses de façon extrêmement restrictive, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce n'est pas ça l'objectif de l'industrie du numérique et de l'industrie de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas d'écrire des textes à notre place. Ça, c'est une... C'est pas pour ça qu'il développe ça.
Il fallait bien que j'introduise le sujet.
Absolument. L'objectif visé, c'est de nous parler. C'est-à-dire que des fantômes viennent nous parler. Le début d'Hamlet. Il y a le père d'Hamlet qui vient voir le spectre du roi, du feu roi, qui vient voir Hamlet et qui lui dit je ne suis pas mort par des morsures de serpent, j'ai été assassiné par ton beau-père. Et il lui révèle la vérité et il lui enjoint de le venger. Alors c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, le courant qui est à l'œuvre depuis une quinzaine d'années, depuis une dizaine d'années, et aujourd'hui encore, et ça va être sans cesse croissant, il y a des fantômes qui maintenant sont dotés de la faculté de langage, qui nous disent des choses, qui sont censées être éclairées de leur lumière, toujours plus omniscientes, une sorte de surmoi omniscient, et qui nous enjoignent d'agir de telle manière, plutôt que telle manière, à diverses fins, notamment à des fins commerciales. Et via une interface parlante, c'est-à-dire quelque chose de très très troublant. C'est-à-dire, c'est qui parle,
oui, hein?
Ça parle. Ça parle et ça nous suggère, ça nous conseille, ça nous apporte les lumières, et ça répond principalement à des intérêts. C'est-à-dire, ça parle, vous êtes dans votre bain, mon enceinte connectée va parler, parce que ChatGPT pourra, comme d'autres systèmes, hein, OpenAI, c'est ChatGPT ou d'autres systèmes développés par d'autres entreprises, dont Google, enfin toute l'industrie du numérique, nous dira dans votre baignoire, vous êtes dira, maintenant, après le bain, il vous faudra pour le prochain bain une huile essentielle, et aller rencontrer telle personne, aller voir tel film, aller dîner dans tel restaurant. C'est ce que j'appelle l'orientation algorithmique de la vie.
Donc tout est un cheval de Troie.
Tout est un cheval de Troie, et l'idée, ce qui se passe, c'est qu'il y ait une fluidification permanente entre les machines et nous, mais avec des fins extrêmement précises. Il y en a principalement deux, c'est très simple ce que je vais dire. La première, c'est d'instaurer ce qu'on peut appeler très simplement une marchandisation intégrale de la vie, c'est-à-dire que les machines ne cessent de nous conseiller, de nous apporter leur lumière, en vue principalement d'engager des transactions marchandes. Et la deuxième, c'est en vue d'instaurer ce qu'on peut appeler une hyper-rationalisation de la société, une algorithmisation de la société, c'est-à-dire que chaque chose soit à chaque fois, ou chaque être, ou chaque geste, soit à chaque fois à la bonne place supposée.
Eric, c'est un peu comme si donc on avait affaire 24 heures sur 24 à un margoulin supérieurement intelligent qui à chaque fois a une idée en tête, une idée derrière la tête.
Il a toujours une idée derrière la tête.
Quelque chose.
Il a toujours une idée derrière la tête. Il n'est pas supérieurement intelligent.
Non, mais de toute façon, il
est supérieurement connaissant.
Malin.
Et puis au fait, c'est ce qu'on appelle les profils. Il est supérieurement au fait de quantité de données nous concernant chacun d'entre nous. Et c'est ça, principalement, les systèmes d'intelligence artificielle, c'est des systèmes d'interprétation de situations, de comportements et de faculté de recommander en retour.
Bien sûr.
De recommander. Et quand c'est recommandé avec des voix avenantes, qui semble proche des nôtres ou similaire à la nôtre et qui en plus ne cesse de donner des conseils, de formuler des recommandations semblant toujours plus pertinentes, on voit bien qu'il y a quelque chose comme une sorte de symbiose qui est à même de s'instaurer, une sorte de lien toujours plus ombilical, et puis aussi l'hypothèse de se défaire de notre capacité de jugement, d'action, au profit de la possibilité de se laisser porter par des systèmes dont, je le redis, les seules visées sont d'engager des transactions marchandes continuellement, oui, de façon extrêmement habile, c'est-à-dire hyper personnalisée, extrêmement habile, contextualisée, hyper personnalisée, évolutive, qui suppose aussi d'aller au-devant de nos désirs. Enfin, la connaissance via les données par des algorithmes en vue de détenir presque une sorte de prescience à l'égard de notre comportement est toujours plus sophistiquée. Donc voilà, nous allons vers une sorte de monde où il y a de moins en moins d'écart entre une certaine industrie et les individus. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une symbiose, de quelque chose qui est ombilical et qui fait que, eh bien, on se laisse porter.
Quelqu'un veut réagir ? Alors, je rappelle aux éditeurs que s'ils veulent poser des questions à Eric Sadin ou à n'importe qui sur le plateau par rapport à des peurs, des angoisses qu'ils pourraient avoir par rapport à ce qu'on appelle, très étrangement, on va revenir sur ces expressions, l'intelligence artificielle, vous pouvez nous appeler au 3921 ou 739-21. N'oubliez pas de le faire, on compte sur vous. Oui, Patrick.
Vous savez, Yann, qu'en Chine, une très grande entreprise a placé à sa tête comme président un robot, c'est-à-dire une création de l'intelligence artificielle qui est officiellement le dirigeant de l'entreprise, qui donne des instructions, etc. Et donc, mais il y a dans ce conglomérat plusieurs dizaines de milliers de salariés, eux, humains, qui doivent obéir aux directives de leur dirigeant virtuel, qui est donc une émanation d'intelligence artificielle. Donc plus personne ne sait qui est derrière, qui dirige vraiment, etc. Mais ce que nous dit Eric Sadin, c'est que bientôt le seul champ de l'humain sera le dadaïsme, l'irrationnel complet. Donc on va devoir, nous, pirater les algorithmes par des propositions farfelues, comme nous déclarer ce soir à un autre endroit où nous sommes. Nous serions par exemple rue François 1er si nous en avons envie, pour faire dérailler les machines, parce que sinon le champ du rationalisme va s'étendre à l'infini, et l'esprit humain face à des machines d'exécution beaucoup plus rapides, ayant accès à une connaissance immédiate beaucoup plus importante que même le plus grand champion d'échecs, nous vaincrons toujours. Donc notre seule chance, c'est l'irrationnel.
Et moi, j'ai une question à vous poser tous. J'entends ce que vous dites, mais Eric, mais alors brièvement, Eric, parce que... Et Patrick vient de donner l'exemple d'un PDG qui est une machine. Bon. Il y a quand même une différence entre le fait de réfléchir et le fait de penser. J'entends bien qu'on pourrait, à toute vitesse, imaginer qu'une machine puisse réfléchir. Encore faudrait-il décrire ce qu'on entend par réflexion. En revanche,
traiter des informations, les analyser.
En revanche, il y a quelque chose qu'une machine ne pourra jamais faire, c'est penser, dans la mesure où la pensée part d'abord du principe qu'on sait qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'il faut une réflexivité dans l'intelligence, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est intelligent ou on sait qu'on ne l'est pas. Enfin, il faut une réflexion sur l'intelligence pour parler d'intelligence. Donc comment est-ce qu'une machine... Je vais faire simple aussi pour les auditeurs. Comment est-ce qu'une machine qui ne pense pas, qui peut éventuellement réfléchir avec toutes les guillemets qu'on peut mettre, c'est-à-dire traiter des informations, peut se permettre de donner des ordres à des hommes ?
Ah ben ça, c'est le cœur, Yann, c'est le cœur de l'affaire. C'est-à-dire, je vais dire les choses rapidement.
Et simplement, parce que parfois les auditeurs nous reprochent d'avoir un vocabulaire qui est un peu
philosophique. Mais là, ça va être très simple, Yann, mais c'est capital.
Parfois, les auditeurs nous reprochent d'être sur une autre fréquence. C'est un piratage.
Patrick, je suis pas tout à fait... Enfin, je vous suis, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais on y reviendra tout à l'heure, on a le temps. Ce que vous venez de dire, Yann, c'est capital. C'est-à-dire, le moment que nous vivons depuis une dizaine d'années, en gros, depuis l'apparition du smartphone au tournant des années 2010, c'est un changement de statut des technologies numériques. C'est ça, le fait. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça va être très simple. Hein. Ne me regardez pas avec cette
aile.
Ça va être simple ici.
Non, c'est le suspense qui me faisait...
Voilà. J'en joue un peu. Hein. Ouais.
Yann Moix, c'est un adolescent tyrannique. Si le propos n'est pas assertif au bout de 45 secondes, il décroche.
On va le satisfaire. Historiquement, et ces fonctionnalités continuent, les technologies numériques ont été érigées en vue de fonctionnalités très déterminées. C'est la récolte automatisée d'informations, le stockage, l'indexation, L'indexation, on tape un mot, on a relativement à des bases de données, on a de l'information qui nous vient en fonction du mot, ou de la, du terme index qu'on prend comme index, et une manipulation toujours plus aisée à diverses fins de l'information. C'est ça qui est à l'œuvre depuis plus d'un siècle maintenant, depuis les cartes perforées avec le recensement des États-Unis en 1890, depuis plus d'un siècle maintenant, ce sont ces fonctionnalités. Depuis une dizaine d'années, ces fonctionnalités demeurent, elles ne cessent de se sophistiquer, mais est agrégée une autre fonctionnalité, j'ai presque envie de dire une autre mission, c'est d'expertiser le réel. L'expertiser le réel à notre place, de façon supposément plus fiable et à des vitesses infiniment supérieures aux nôtres. Alors quand je dis ça, vous me dites, mais de quoi il parle? Je vais vous donner un exemple très simple, très très simple. L'application Waze.
Waze. Pour conduire.
Voilà, racheté par Google à une société israélienne, une start-up israélienne, je crois que c'était en 2005. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle expertise en temps réel des choses que je ne sais pas, moi, l'état du trafic. Toute une série de paramètres qui dépassent mes capacités cognitives, n'est-ce pas? Qui expertise, et de plus en plus, ces systèmes expertisent en temps réel. En temps réel, ça veut dire au moment même où les choses ont lieu. Et qui révèle des états de fait. Et qui, en fonction de ces états de fait, suggère d'agir de telle manière, en l'occurrence prendre tel itinéraire en vue de la plus grande optimisation, plutôt que tel autre itinéraire. Et cette structure-là d'expertise, d'énoncer des faits avec un pouvoir injonctif, c'est ça qui est à l'œuvre depuis une dizaine d'années. Et quand je dis un pouvoir injonctif, je termine juste sur ça, c'est que ça a lieu à différents niveaux. On en reparlera tout à l'heure si vous êtes d'accord, des individus, acteurs sociaux, dans le champ du management, dans le champ de la médecine, ça a lieu à plusieurs niveaux. Donc qu'est-ce qui se passe d'un point de vue civilisationnel et anthropologique pour terminer, c'est que nous avons érigé des machines dotées de la capacité de nous dire la vérité, de nous énoncer la vérité, c'est-à-dire la vérité, de nous révéler des états de fait, mais d'agir en fonction, parce que la vérité a toujours un pouvoir performatif, comme la vérité religieuse qui si on se soumet au dogme, appelle d'avoir telle alimentation, je suis telle, ou la vérité des parents qui disent il est 21h matin, il faut aller te coucher. Ça a valeur de vérité, mais injonctive. Et donc, les systèmes d'intelligence artificielle sont dotés d'une capacité à énoncer la vérité, c'est-à-dire à révéler des états de fait, comme étant, analysant souvent des situations, je l'ai dit, selon des vitesses et des degrés de fiabilité supposément infiniment supérieurs aux nôtres, mais aussi de nous encourager à agir de telle manière plutôt que telle. Donc il y a une rupture civilisationnelle et anthropologique qui voit des systèmes se supplanter pas seulement à nos gestes, à l'action humaine, comme ça peut être le cas dans la robotisation, mais se supplanter à la capacité d'estimation de jugement et à la capacité de décision. Donc là, et principalement, je terminerai sur cela, à des fins, principalement, c'est toujours cela qu'il faut suivre, à deux fins principales, c'est-à-dire l'hyper-optimisation des situations humaines, de la vie collective, et la marchandisation intégrale de la vie. Car quand un système de plus en plus omniscient vous dit « Toi, Yann, à tel moment, c'est tel parfum qu'il te faut, vu de tout ce que je connais de toi,
etc. »
Ou tel trajet que tu dois emprunter, ou tel produit
que
tu dois...
Parce qu'il y a peut-être un supermarché sur le chemin, pour faire simple.
Voilà. Et c'est...
Enfin, moi, j'irais plus loin que vous, c'est que la conséquence, et vous n'en parlez pas, c'est l'infantilisation des gens. Je vous parle en tant que conductrice d'une voiture très très moderne, donc pleine d'intelligence artificielle. La voiture, de temps en temps, et ça, la première fois, ça m'a vraiment scotché, m'a dit, vous êtes fatiguée, reprenez le contrôle de votre véhicule.
Ah bon ?
Oui, absolument. Ensuite...
Analyse des traits du visage.
Alors voilà, je me suis demandé. Ensuite, on m'a dit le réservoir est presque vide. Est-ce que vous voulez qu'on vous signale les stations-service à proximité ?
Analyse des traits du visage.
Bah, évidemment, ouais. Évidemment.
Voilà, donc ça va quand même très très loin. Je ne me suis pas arrêtée, je n'ai pas eu d'accident. Mais en fait, la conséquence de tout ce que vous racontez, ce n'est pas seulement de vous pousser à acheter des choses, bien sûr.
C'est un dessaisissement.
Il y a quand même un dessaisissement de la personnalité et de la prise de décision.
Il y a quelque chose de ludique. On a presque envie d'être fatigué, d'avoir les traits tirés pour savoir si la voiture va nous le spécifier.
Ouais.
Il y a ça aussi. Il y a un auditeur en ligne, Maxime. Allô Maxime ?
Bonsoir.
Vous avez une question, une inquiétude, une angoisse ?
Oh, inquiétude et angoisse, en tout cas, j'écoute avec beaucoup d'intérêt et avec un peu d'effroi quand même. Et il y a deux mots qui ont été prononcés qui sont pour moi capitaux à retenir. C'est à la fois la jonction et l'infantilisation. Alors, l'injonction, effectivement, jusqu'à quand ne va-t-on pas être aux ordres de machines? Alors, bien entendu, si c'est pour nous signaler un peu plus fort un sens interdit, par exemple, on parlait d'automobile, avec un truc qui s'allume sur la route, que sais-je. Bon, des choses toujours du domaine de l'avertissement, mais qui laissent tout de même le libre arbitre à l'humain, ma foi, pourquoi pas. Mais à quand l'injonction répressive? On a également de la vidéo-verbalisation qui existe. Et d'ailleurs, pour conclure sur l'automobile, je déteste les voitures modernes. La mienne a 39 ans et j'en suis très content.
Ça se court, hein, mon cher Maxime. Hein.
Je vais essayer. Sur le logiciel GPT dont il a été question juste avant, c'est pour moi, malheureusement, vu où il en est de son développement, un logiciel d'appétissement plus qu'un outil pour aller chercher plus facilement de la culture ou des informations. Et en revanche, ça donne l'impression de tout pouvoir savoir en un clic et même sans avoir à faire l'effort de lire. Mmh. Et je me demande, dans une société comme ça, si tout tombe en panne ou si il y a une sorte de guerre numérique 3.0 qui est lancée, quid de l'humain où tout cela lâcherait?
Qui veut répondre? Alexandre. Alors Alexandre, vous présentez, vous représentez pour nos auditeurs, il est 23h35, on est en direct sur Europe 1. Présentez-vous mon cher Alexandre.
Alors Alexandre Gazuy, moi je suis ingénieur informatique, donc je ne suis pas un chercheur en intelligence artificielle, mais je travaille au quotidien dans le cadre de mon travail avec des intelligences artificielles. Et en quelque sorte, je fais partie des gens qui, d'une certaine manière, essaient de trouver des usages utiles pour les intelligences artificielles. Après, derrière utile, effectivement, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire. Et je voulais juste revenir, parce qu'on a parlé plusieurs fois de ChatGPT, et notamment sur la notion de culture et sur les chroniques des erreurs qu'il pouvait commettre. Je pense que c'est important, quand on parle d'intelligence artificielle, de quand même un peu comprendre et un peu situer sur là où on en est aujourd'hui. Dans le cas de ChatGPT, si on ne comprend pas à quoi sert cet outil, c'est compliqué de juger un peu les résultats qu'il fournit. Et il se trouve que ChatGPT...
On a eu deux exemples. Hein.
Pardon ?
On a eu deux exemples à l'antenne qui effectivement... Non,
si l'intelligence artificielle n'est pas encore capable d'être susceptible, il y a des informaticiens qui sont capables de l'être.
Ah non, 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 c'est pas du tout de la susceptibilité. Oui. Je vous donne une information, vous faites ce que vous voulez. Non, oui. C'est pas un moteur de recherche. On a beaucoup parlé après l'arrivée de ChatGPT, que Google était en train de trembler, que... ils étaient en train de sonner une alerte rouge parce que leur moteur de recherche serait inférieur. ChatGPT, ce n'est pas un moteur de recherche. L'objectif de l'algorithme de ChatGPT, c'est uniquement de la prédiction de mots. Il se trouve que pour apprendre à prédire des mots et du coup à générer des messages, on lui a fait lire un certain nombre de corpus de textes.
Qu'est-ce que c'est que la prédiction? Oui,
je ne comprends pas non plus la prédiction des mots, mais je vous laissais parler pour comprendre.
Faisons un test, si je vous dis bonjour, comment allez? Finissez ma phrase.
Vous.
Voilà. On lui demande de faire cet exercice-là. On va lui donner un début de phrase et il va être capable
Sacha
de générer
Guitry
la suite.
Sacha Guitry est né en et rempli.
Voilà, exactement. Et du coup, pour faire ça, on lui a, sans entrer dans le détail technique, mais en tout cas, il a ingéré tout un corpus de textes qui proviennent de différentes sources. Oui. Et ce qu'on lui demande, c'est de comprendre la sémantique des mots et des phrases qu'on va lui poser comme question et de répondre avec quelque chose qui sera correct, qui sera crédible, mais pas forcément qui sera juste en termes d'informations.
D'accord, mais quelle est la source il puise où ces informations?
Alors, ça a été expliqué, même si on n'a pas le détail complet. Oui, mais par exemple,
les gens ne le savent pas.
Oui, il a notamment lu toutes les pages Wikipédia qui se trouvent sur Internet.
Donc, il a lu aussi toutes les pages.
D'erreurs.
Je me fais l'écho des choses qu'on lit.
Également.
Toutes les pages de manière indiscernable. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre l'Encyclopédie Universalis et le site d'un complotiste.
Alors, a priori non, même si selon comment est composé le corpus.
Oui, il arrive à détecter si c'est complotiste ou pas.
Et l'autre chose, c'est que si vous essayez de, alors même si c'est limité, mais si vous essayez de faire dire des théories complotistes ou des théories, par exemple, climato-sceptiques à ChatGPT, il va pas mal résister parce qu'il a été ensuite, une fois qu'il a appris la sémantique du langage, il a été ensuite entraîné avec notamment des humains et d'autres techniques d'apprentissage pour réduire son champ des possibles en termes de communication.
Mais c'est effrayant ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'à partir de quelle limite on a le droit de restreindre le champ des possibles? C'est-à-dire que si c'est pour dire qu'Hitler était une ordure, d'accord, mais si on en arrive par dire, in fine, par comme dichotomie successive, que Zelensky, lui aussi, en est une, ou alors Israël également se comporte comme... Vous voyez ce que je veux dire?
Complètement, mais ça fait partie des questions qu'il faut qu'on se pose effectivement en tant que citoyen au niveau de la société sur ce genre d'outils, c'est comment on va vivre avec. Alors, je sais que rien n'est inéluctable, mais aujourd'hui, ces technologies ont été inventées, elles existent, elles vont probablement continuer à être développées.
Et qui s'en sert du ChatGPT?
N'hésitez pas à vous couper à prendre la parole et tout, parce que sinon, ça va ressembler à une émission de radio.
ChatGPT, en soi, c'est pas un outil qui est, on va dire, enfin, il a été ouvert au grand public. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est probablement un moyen de communication
et de test.
En fait, de test et de communication.
Je vous coupe tous. Je voudrais que cette émission ressemble à un dîner. C'est la première fois qu'on fait ça. Si on est trop poli les uns avec les autres, je ne veux pas qu'on s'insulte et qu'on s'invective, mais si on est trop...
Pourquoi vous me regardez, Yann-Max?
Parce que Victor Dumiot, lui, il est venu, on se demande pourquoi. Hein. Il a dû prendre un Stilnox avant d'arriver ici. Mais je veux dire,
j'avais envie d'intervenir.
C'est trop
ça.
Non, mais non, je dis franchement.
Et je me suis retenu. Parce
c'est trop ça. Il faut imaginer qu'on ait un dîner.
On va pas s'interrompre.
Mais non, ça fait trop émission.
Pendant que je mange mon... Mais
on a le droit de fumer, là, on a le droit de boire, on a le droit de manger, on a le droit de s'interroger, faut que ce soit vivant.
Est-ce qu'à propos de ChatGPT, je peux dire quelque chose?
D'accord, mais pas toujours vous, hein, Eric.
Mais j'ai bien compris.
Non, mais vous savez couper la parole aux gens, mais il y en a qui ne savent pas.
Non, bon, ok, mais je vais
Nicolas, Victor,
je trouve que j'écris sur ça. Moi, j'ai écrit un texte, une tribune sur ChatGPT.
On y comprendra bientôt plus rien. Et aucune intelligence artificielle n'arrivera à retracer correctement ce que nous disons ce soir.
Prenez votre repas, continuez à dîner. Je voudrais juste terminer ce que je voudrais dire à propos de ChatGPT. C'est-à-dire... C'était très intéressant les deux textes que vous avez lus, Yann, sur Guitry
et après, pour une auditrice, c'est ce qui est important.
En quelques mots, oui. En quelques mots. Le fait qu'il y ait des erreurs, ok, mais dans 7 ans, il n'y aura pas ces erreurs, mais c'est symptomal. C'est symptomal et c'est symptomatique de quoi? C'est-à-dire que c'est une île... Comment fonctionne, vous avez parlé, c'est Alexandre, c'est,
oui,
ça,
c'est ça?
Vous avez parlé de trucs techniques et Yann a dit c'est technique, c'est un peu... Non, il faut voir comment
j'ai
fonctionne
dit c'est technique,
techniquement.
Pas dire que c'était imbitable.
C'est-à-dire que ces systèmes ne se nourrissent que de corpus existants. Ne se nourrissent que de corpus existants et d'algorithmes qui réagissent à des schémas logiques. Et en ça, ce n'est pas du langage naturel. Ce n'est pas notre langage. Pourquoi? Parce que, je termine juste, Patrick. Le langage naturel...
Quand Eric Sadin dit « je termine juste »,
c'est en général, c'est pas très bon signe.
Il est lucide.
Le langage naturel, c'est que nous procédons comme ça, mais en même temps, pas du tout de cette manière. C'est-à-dire que nous ne cessons de puiser dans un océan phraséologique, dans des règles, dans de la grammaire, mais nous contextualisons à un instant, aussi bien dans l'écrit que dans l'oral, qui déborde toute schématisation logique. C'est ça le génie de du langage humain.
Bah, moi, ce qui me dérange, Eric, c'est que le langage humain, il est connecté au réel. C'est un langage humain qui n'a jamais connu le réel de sa vie.
Il est non seulement connecté au réel.
Il le dit, il le forme,
mais
il le fait.
Il est aussi connecté à la variabilité, comme disait Bergson, du réel.
Alors, si vous citez un philosophe, en fait, Heidegger disait le mot donne l'être. Le mot de GPT, il donne quoi, lui?
Le mot de
il donne quoi?
Il donne que de la schématisation logique.
Ça.
C'est-à-dire ce qu'on attend en
donc
gros de lui.
Le contraire de l'être.
On attend ce qu'on attend de lui.
Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais lu des nouvelles d'Isaac Asimov. Et je me souviens, je crois, d'une de ces nouvelles. Malheureusement, je n'ai pas le titre pour nos auditeurs qui sont nombreux, ceux qui ont tenu jusqu'à ces explications un peu longues. Mais pour parler sérieusement, il y avait une nouvelle où on disait « Les hommes sont tous des ambitieux, ils ne sont pas vertueux, ils se disputent pour le pouvoir », ce que nous savons déjà dans Hamlet et dans son royaume pourri du Danemark. Mais donc, pour les départager, on ne peut plus se départager entre hommes ou entre femmes, entre humains, puisque nous sommes dévorés par nos passions et nos ambitions. Et donc, à un moment donné, les êtres humains s'en remettent à une machine. Et on est à minuit moins une de cette prédiction-là, c'est-à-dire... Yann, si vous parlez dans votre micro pendant que j'essaie de parler, on va
pas
s'en
sortir. Il y a des auditeurs. Ce que vous ne savez pas, c'est une bonne nouvelle, oui. C'est que l'émission intéresse beaucoup les auditeurs et je suis en train de trier les auditeurs parce qu'on ça explose le standard.
Donc, on est à minuit moins une que des gens se réunissent en disant de toute façon, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord entre nous. Il n'y a que la machine qui sait pour nous. Parce qu'elle sait tout.
Vérité.
Et nous en remettons notre pouvoir démocratique à une machine qui décidera pour nous. C'est une nouvelle d'Asimov qui doit avoir 60 ans. Et je pense qu'on en est à minuit moins une de cela. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple de ce chef d'entreprise numérique.
Ouais, ça c'est passionnant, ça.
On se dessaisit complètement. La machine, c'est pour nous. Elle décidera pour nous, puisqu'elle n'est paramétrée par aucune de nos contraintes, de nos ambitions, de nos passions dévorantes. Et on va donc se retrouver volontairement soumis à l'impératif catégorique de l'algorithme.